Il est midi sur Radio Orient. Bonjour à tous. Le journal Loïc Barrière. Six Palestiniens tués par les forces israéliennes en Cisjordanie occupée, 19 personnes ont également été blessées. Amnesty International appelle à une enquête de la CPI pour crimes de guerre après l'opération israélienne en août dernier dans la bande de Gaza. Le Conseil des ministres franco-allemand aurait dû se tenir cette semaine. Il a été reporté. Qu'est-ce qui explique les divergences entre Paris et Berlin ? Élément de réponse avec Patrick Le Yarrick, éditorialiste à l'Humanité. Au Soudan, des manifestations pour dénoncer le pouvoir militaire un an après le putsch du général Abdel Fattah el-Burhan. Enfin, le président du parti radical, Laurent Hénard, estime que le RN est aux portes du pouvoir. Il était l'invité de Pluriel hier soir. Six Palestiniens tués dans des raids menés par les forces israéliennes à Naplouse et Ramallah en Cisjordanie occupée. Selon le ministère palestinien de la Santé, 19 personnes ont également été blessées. L'armée israélienne indique avoir mené une vaste opération avec la police contre le nouveau regroupement de combattants palestiniens surnommé la Fosse aux Lions. L'armée indique avoir visé le quartier général et un atelier de confection d'armes de ce mouvement dans la vieille ville de Naplouse. Le premier ministre israélien Yair Lapid a annoncé qu'un des dirigeants de la Fosse aux Lions, Wadih el-Hout, a été tué. De son côté, le président Mahmoud Abbas a lancé des contacts urgents pour mettre fin à cette opération qualifiée d'agression contre le peuple palestinien par son porte-parole Nabil Abu Rudeina. C'est dans ce contexte tendu qu'Amnesty International appelle à une enquête de la Cour pénale internationale sur de possibles crimes de guerre commis par Israël et des combattants palestiniens dans la bande de Gaza cet été. Entre le 5 et le 7 août, au moins 49 Palestiniens ont été tués lors d'une opération israélienne contre le djihad islamique. Parmi les victimes figurent plusieurs enfants. Et puis on apprend qu'Israël signera jeudi l'accord sur sa frontière maritime avec le Liban, un accord négocié via les États-Unis, ce qui devrait permettre l'exploitation de gisements gaziers en Méditerranée orientale. Le couple franco-allemand bat de l'aile. Le Conseil des ministres franco-allemand, qui devait avoir lieu demain à Fontainebleau, a été reporté. Paris reproche notamment à Berlin de privilégier les achats militaires américains au détriment de l'industrie européenne. L'analyse de Patrick Le Yarrick, éditorialiste à l'Humanité.
Il y a plusieurs sujets de tension, dont une partie est liée à la guerre. Il y a le sujet de ce fameux oléoduc espagnol, en quelque sorte, allemand-espagnol, qui doit traverser la France. Bon, le gouvernement français, je crois, à juste raison, n'est pas trop pour qu'on perce les montagnes des Pyrénées pour le transporter. Il y a d'autres sujets liés également à la pression souvent des États-Unis sur l'Allemagne. Par exemple, l'affaire de l'explosion du gazoduc vise explicitement l'Allemagne et ouvre des portes supplémentaires aux États-Unis pour vendre leur production aux Allemands, notamment la production automobile que la précédente chancelière avait tout fait pour conserver. Et il y a le fait que l'Allemagne aujourd'hui, pour se protéger et protéger ses concitoyens, débloque 200 milliards d'euros pour cela, pour éviter des trop grosses augmentations de prix, pour protéger son industrie, parce que je pense personnellement que l'Allemagne est au cœur d'une tourmente aujourd'hui du fait de la guerre. Cette tourmente ne provient pas exclusivement de la Russie, elle provient surtout des États-Unis qui font pression sur l'économie allemande, mais la France et l'Italie ne seront pas épargnés. On peut se trouver dans les prochains temps, avec les hausses du coût de l'énergie, dans une situation où notre industrie ne pourra plus fonctionner. Et les Américains jouent là-dessus pour être en situation aussi de nous vendre leur pétrole et le gaz en remplacement du gaz russe. Autrement dit, c'est une sorte de mainmise des États-Unis sur l'Union européenne. Et à l'intérieur de ceci, il y a évidemment des divergences. Il y a des divergences entre le couple franco-allemand et l'Europe orientale. Et au sein des initiateurs du marché commun, comme on l'appelait à l'époque, des six pays, il faut enlever maintenant le Royaume-Uni, il y a aussi des tensions, il n'y a pas de solidarité sur la manière d'affronter les questions, parce que, par exemple, on n'a pas de vue commune, par exemple, sur l'industrie, sur l'énergie, sur l'armement, puisque les Allemands achètent de l'armement nord-américain, les avions F-35 nord-américains. Donc, il y a une période de tension, de turbulence là, qu'il ne faut pas sous-estimer, en ce sens qu'elles auront des conséquences très concrètes sur les familles populaires.
Il y a des divergences aussi entre l'Allemagne et la France sur la question de la défense européenne, puisque l'Allemagne envisage une protection via notamment une technologie israélienne.
Oui, alors ça, c'est les systèmes de boucliers antimissiles dont on parle aujourd'hui. Les Allemands les achètent aux Israéliens au lieu d'avoir un projet commun de fabrication. Parce que peut-être dans les sphères dirigeantes allemandes, on se sent menacé, mais surtout la grande nouveauté, c'est le réarmement de l'Allemagne, c'est-à-dire l'augmentation du budget militaire de 38 milliards à 55 milliards, auquel il faut ajouter un fonds de réserve de 100 milliards à la discrétion du gouvernement allemand selon les dépenses qu'il jugera utiles. Donc oui, il y a une multitude, mais je pense personnellement que ce n'est pas bien que l'Allemagne achète des boucliers antimissiles aux Israéliens qui vont bien en profiter, mais je ne suis pas non plus d'accord qu'ils achètent le F-35 nord-américain. Autrement dit, ils mettent l'Union européenne dans une situation de plus grande dépendance.
Patrick Le Yarrick, il a récemment publié « Les raisons de la guerre en Ukraine » aux éditions de l'Humanité. Au Soudan, malgré la coupure d'Internet, des manifestations ont eu lieu pour marquer le premier anniversaire du putsch et réclamer un gouvernement civil. Des centaines d'élèves et d'étudiants ont notamment manifesté dans la ville d'Atbara. Des manifestations se sont déroulées dès hier soir à Khartoum. En France, la mise en examen de 10 femmes rapatriées la semaine dernière depuis des camps de prisonniers djihadistes de Syrie, placées en détention provisoire. Elles sont poursuivies pour association de malfaiteurs terroristes criminels. L'une d'entre elles a aussi été mise en examen pour crimes contre l'humanité et génocide. Retour sur le déplacement du président de la République mercredi dernier à la Grande Mosquée de Paris, une visite à l'occasion du centenaire de la pose de la première pierre de l'édifice en 1922, un bâtiment construit en hommage aux soldats musulmans morts pour la France pendant la Grande Guerre, entretien avec l'imam et théologien Abdelali Mamoun.
Je voulais vous faire part de l'immense émotion que nous ressentons ce jour historique dans lequel nous avons inauguré le centenaire de la pose de la pierre de la construction de la Grande Mosquée de Paris, qui est un moment historique pour tous les musulmans. Et la présence du président, bien entendu, non seulement importante, mais indispensable, parce qu'il fallait pas moins que la plus haute autorité française soit présente et, bien entendu, s'adresse à la composante musulmane de France pour lui manifester sa totale considération, sa totale intégration au paysage français. Et c'est ce qui, à mon avis, est le plus important pour les musulmans de France, de ne pas ressentir le mépris, le rejet des institutions françaises qui représentent notre pays.
Le président de la République qui a rappelé le sacrifice des soldats musulmans morts pour la France lors de la Première Guerre mondiale.
Oui, effectivement, c'est ce pourquoi la Grande Mosquée de Paris a été construite. C'est pour honorer, c'est pour rendre hommage à ces dizaines de milliers de soldats qui sont morts pour la France et qui étaient de confession musulmane et qui ont donné leur vie pour la France. Ça, c'est bien entendu le plus important quant à la raison principale de l'existence de ce bel édifice au cœur même et au centre même de la capitale française.
Mettre en lumière la cohésion nationale, est-ce que vous estimez que c'est particulièrement important aujourd'hui ?
Tout à fait, parce qu'aujourd'hui, il y a une vague islamophobe, une vague raciste, une vague, on va dire, conservatrice d'une France, on va dire, qui aurait une identité seulement chrétienne ou judéo-chrétienne et pas musulmane, et que la présence musulmane n'a pas sa place dans le paysage français. Et bien entendu, nous rejetons totalement cette idée. Aujourd'hui, nous sommes la deuxième religion de France. Il est tout à fait normal que cette religion soit reconnue, soit totalement intégrée au paysage français, parce que nous sommes les enfants de la République, parce que nous aimons la France, parce que nous sommes les enfants de ces parents qui ont construit la France. Nous sommes les petits-enfants de ceux qui ont libéré la France. Et qu'aujourd'hui, on nous dise non, l'islam n'a rien à voir avec la France, ça serait la plus grande des calomnies et des indignations. Nous ne pouvons pas tolérer cela. Nous sommes français et fiers de l'être, et nous sommes musulmans et fiers de l'être.
Cette filiation que vous évoquez, le chef de l'État l'a rappelé.
Oui, en effet, et c'est très bien. Nous sommes particulièrement satisfaits des propos de Monsieur le Président de la République, qui, bien entendu, à travers ces termes-là, et sa présence, ne serait-ce que sa présence, et le fait d'avoir délivré la Légion d'honneur au recteur de la Grande Mosquée de Paris, sont des actes symboliques énormes qui montrent la considération de la nation et des institutions françaises à l'égard de cette religion qui est l'islam.
Avec une assemblée diverse de grands et de grandes intellectuels comme Hélène Carrère d'Encausse, des représentants du culte chrétien, juif et musulman.
Oui, l'ancien président de la République, M. Sarkozy, M. le ministre de l'Intérieur, le préfet d'Île-de-France, le préfet de Paris. Donc toutes ces personnalités et bien d'autres, hein, M. Benjamin Stora, M. El Kabach, etc. Et puis le grand rabbin de Paris, grand rabbin de France, M. Corsia, qui étaient là, eux aussi, pour soutenir et montrer leur fraternité et l'importance que ce n'est pas quelque chose qui est l'initiative d'un chef d'État et de son petit groupe qui est autour de lui, mais bien d'une reconnaissance globale de toutes les composantes religieuses et non religieuses de ce pays qui, bien entendu, à travers cet acte-là, montre qu'ils sont associés à cette fraternisation de cette composante musulmane au reste de la communauté nationale.
Et l'imam et théologien Abdelali Mamoun au micro de François-Xavier de Calonne. L'émir du Qatar dénonce la campagne menée contre son pays qui organise la Coupe du monde de football le mois prochain. Selon lui, il s'agit d'une campagne de calomnie sans précédent devant l'assemblée consultative de son pays. Il a exprimé le souhait que le monde puisse être témoin de l'hospitalité et de la générosité des Qataris. Invité de Pluriel hier soir, le président du parti radical Laurent Hénard estime que le RN est aux portes du pouvoir. Il est revenu aussi dans cette émission sur l'interview de Nicolas Sarkozy suggérant un accord politique entre Emmanuel Macron et les Républicains. Extrait de cette émission.
Alors d'abord, je voudrais rappeler que le parti radical a fait le choix en 2021 de s'engager dans la campagne présidentielle d'Emmanuel Macron. Donc nous sommes une des quatre formations de la majorité présidentielle. Il y a la République En Marche qui est en train de devenir Renaissance, il y a le Modem autour de François Bayrou, il y a Horizon autour d'Édouard Philippe et il y a le Parti Radical que j'ai l'honneur de présider. Sur la position prise par le président Sarkozy, moi, je pense que le vrai problème c'est que les Républicains eux-mêmes, je pense, n'ont pas envie de sortir de l'ambiguïté. On voit bien que certains pourraient très bien travailler avec nous, avec la majorité, autour de réformes qui touchent aux retraites, à la sécurité, à la modernisation de l'économie, ou au développement, par exemple, des formations en alternance, qui est un sujet qui me tient à cœur, le développement de l'apprentissage et de la formation professionnelle pour rapprocher du monde du travail les jeunes et les seniors. On voit bien que sur ces sujets-là, il y a des Républicains qui pourraient travailler avec nous. Mais ils sont aussi dans une posture où ils n'ont pas envie de se laisser doubler encore plus par le Rassemblement national. Et je pense qu'à un moment donné, il va falloir qu'ils fassent un choix. Soit suivre le Rassemblement national en estimant que c'est leur concurrent, et dans ce cas-là, je pense qu'ils finiront comme les socialistes qui ont dû se ranger derrière la France insoumise et Jean-Luc Mélenchon, derrière l'extrême-gauche. Ou alors se dire que les extrêmes sont là, qu'il faut revoir complètement les alliances qu'on a pu passer, ce que nous avons fait, nous, radicaux, et constituer une force politique nouvelle au centre. C'est ce qu'a commencé à faire Emmanuel Macron et qu'il va falloir poursuivre, bien sûr, après lui.
Est-ce que vous redoutez de voir l'extrême droite diriger la France après Emmanuel Macron, comme cela vient d'arriver en Italie ?
Alors, vous savez, j'avais déjà dit, avant la présidentielle de 2022, en regardant les résultats des européennes, le racinement aussi de l'extrême gauche et de l'extrême droite au départemental et au régional de 2021, j'avais déjà dit que le RN était aux portes du pouvoir. Je crois qu'il est toujours aux portes du pouvoir, ce qui se passe en Italie, ce qui s'est passé en Suède. N'oublions pas que l'Autriche a eu un chancelier d'extrême droite. Voilà, ce qui se passe en Europe peut très bien se produire en France, avec la particularité de la France qui est que la présidence de la République concentre beaucoup de pouvoir, beaucoup plus que l'exécutif des autres États européens. Raison de plus pour redoubler d'efforts maintenant, pour avoir des résultats sur le quotidien des gens. Ça, c'est le rôle de la majorité, c'est vrai, mais aussi des oppositions qui peuvent participer à des majorités d'idées, faire preuve d'ouverture sur certains textes, comme ça a été le cas d'ailleurs sur le texte pouvoir d'achat. Et puis, il faut aux européennes défendre le projet d'une Europe politique forte, et surtout aux municipales, ne pas laisser le chemin libre à l'extrême droite et à l'extrême gauche, parce que eux seront présents. Eux auront des militants à proposer dans toutes les listes, dans toutes les communes. Il faut que ceux qui aiment la République soient là aussi et en force.
Laurent Hénart, président du Parti radical, il était l'invité de Pluriel hier soir, émission que vous pouvez réécouter sur radioorient.com. WhatsApp a été touché par une panne mondiale. Ce matin, à partir de 9h, les utilisateurs n'ont pu recevoir ni envoyer de messages. L'application a recommencé à fonctionner vers 11h. Enfin, l'invité de Pluriel ce soir à 19h et 23h est Bertrand Pancher, président de Décider Ensemble et député de la Meuse. Je vous retrouve à 15h pour le Flash, à 17h30 pour le journal. Excellente journée à tous.